dénonçait. Moi le fuyard, toi la porteuse. Il préférait te savoir en prison qu'entre les mains d'un pirate. La vérité, Sophie, je n'en ai pas d'autre. Elle ne l'avait pas accepté. Elle ne m'avait pas cru. Elle était en colère. Pendant des semaines, elle m'a à peine adressé la parole. « Elle te fait la gueule ou bien ?» m'avait demandé Ronan en riant. Je ne suis pas allé à l'enterrement du capitaine. Lorsqu'elle a été mise en terre, la perquisition n'avait pas encore eu lieu. Ses amis étaient là, ses camarades et sa réputation intacte. « Aux morts !» Répondant à la sonnerie, tous les drapeaux s'étaient inclinés en bord de tombe. Sophie était en demi-deuil. Un ensemble bleu nuit suffisait. Et puis, un matin, une amie lui a apporté le journal. On lui parlait de son frère. Ces conneries de journalistes en faisaient un agent trouble, dévoilaient le complot et la double vie du croix de feu. Elle seule a compris que les éléments de sa duplicité dont s'étaient régalées les gazettes avaient été fabriqués par son frère pour perdre son mari. Ce jour-là, j'étais rentré du port à vélo. Ronan était resté à la criée. Sophie m'attendait dans la cour, assise sur le banc de pierre, le journal ouvert sur ses cuisses. Elle était défaite. Elle savait. J'ai compris. J'ai ouvert les bras pour qu'elle s'y réfugie. Elle sanglotait. « Pardonne-moi, Jules. » Elle pleurait la trahison de son frère. Elle pleurait d'avoir douté de moi. Elle pleurait de tristesse et de rancœur. Chapitre 16. Guernica. 26 avril 1937. Après 3 ans, mon visage, mon nom, mon existence même avaient été oubliés. La fable de l'évadé introuvable n'avait duré que le temps du papier journal. Cette fois, j'étais vraiment libre. Les gens allaient sans yeux pour moi le jour durant. J'avais retrouvé mes cheveux, probablement les boucles brunes de ma mère, et aussi l'apaisement. Dans la rue, on m'appelait Cadarne, ou le neveu. La boulangère m'offrait du Monsieur Jules. Au port, j'étais le mousse de la Sainte-Sophie. J'allais rarement à Palais, moins par peur d'une mauvaise rencontre que par superstition. Lorsque mon regard se heurtait au mur ou à la citadelle, je baissais les yeux. J'avais croisé le goff à la criée avec une grosse dame qui devait être sa femme. Même habillé en dimanche, il portait ses décorations. Un matin, j'ai salué l'abbé Bricou sur le port de Sauzon. J'avais une casquette, je me suis décoiffé. « Bonne journée, mon père !» Il s'est incliné légèrement, regard inquiet, comme toujours. J'ai senti qu'il s'était retourné dans mon dos. J'étais habillé en retour de pêche, un filet à ramander sur l'épaule. Je ne ressemblais à rien ni à personne, à tout le monde donc. Une autre fois, c'est Chautan que j'ai remarqué près de l'embarcadère. Il prenait le ferry accompagné d'une jeune fille sans sourire. J'ai voulu jouer. Je me suis approché, lui demandant très poliment s'il connaissait l'heure du prochain départ pour Quiberon. Il m'a dévisagé. Un éclat méfiant au fond du regard, les sourcils froncés, une ombre légère sur son front, et puis non. Il a consulté sa montre à Gousset, il restait exactement 23 minutes avant la sirène du bateau et la levée de la passerelle. Une voix civile, mélodieuse, aucune trace du dogue. J'ai remercié, souri à la jeune femme qui ne m'a pas répondu, et j'ai repris ma route de garçon honnête. Au coin de la rue, j'ai tapé dans mes mains en riant. Moi, Jules Bonneau. Évadé de la colonie pénitentiaire de Belle-Île, je venais de demander l'heure du prochain bateau pour le continent au gardien-chef de ma prison. J'étais fou. Une autre fois, j'ai eu le cœur serré.